Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisque nous recevons Adam Helmutan qui vient nous présenter son deuxième projet de cette année. Son premier EP est sorti en mars dernier. Je vous invite vraiment à écouter ces deux projets afin de vous laisser transporter dans un univers utopique et très doux qui vous fera vous sentir comme dans un rêve. Avant cela, nous recevons Cerise du Master Journalisme à l'UPJV qui vient nous parler du ciné-concert qui aura lieu ce dimanche 29 au Ciné Saint-Leu.
Pour fêter Halloween comme il se doit, le Ciné Saint-Leu reçoit trois musiciens qui accompagneront la projection du film Nosferatu le 29 octobre prochain. On connaît tous Dracula, l'une des œuvres épistolaires les plus célèbres de la littérature britannique, écrite par l'Irlandais Bram Stoker en 1897. Mais connaît-on toutes ces adaptations cinématographiques ? Il y en a une en tout cas qui ne laisse pas indifférent, contribuant à inspirer le monde de l'horreur fantastique un siècle durant. Nosferatu le vampire, deuxième adaptation officieuse au cinéma du roman, est réalisée par Friedrich Murnau en 1922. Officieuse parce que pour éviter les droits d'auteur, le réalisateur changea les noms des personnages et la localisation de l'intrigue, ce qui lui vaudra d'ailleurs un procès par Florence Stoker, la veuve de l'auteur. Toujours est-il qu'il en ressort ce film d'horreur muet allemand, en noir et blanc, de 94 minutes, intégralement restauré en 1984, et qui est surtout un poème métaphysique dans lequel les forces du mal ont vocation d'absorber les forces de la vie, pour citer le critique français Jacques Lourcel. Stéphane Orens et Éric Navet, respectivement au piano et au synthétiseur et à la batterie, ont mis en musique près de 18 films muets, à commencer par la création en 1999 du ciné-concert Le Caméraman. C'est un film muet américain d'Edward Sedgwick réalisé en 1928. Pour leur prochaine collaboration autour de Nosferatu, le duo a proposé au contrebassiste Nicolas Mailleux, fondateur du collectif Musix, de les rejoindre pour cette nouvelle création. Le Ciné Saint-Leu vous invite à les écouter jouer à l'occasion du 100e anniversaire du film que tout le monde, sous réservation, pourra découvrir ou redécouvrir le 29 octobre à 16h.
Tout de suite, on enchaîne avec l'interview de notre artiste du jour. Aujourd'hui, je suis avec Adam Helmutan. Il vient nous présenter son tout nouvel EP sorti vendredi dernier. Comment ça va, Adam ?
Ça va et toi, Lisa ?
Très bien, merci d'être venu aujourd'hui.
Avec plaisir.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouvel EP ? Est-ce que c'est une suite de ton premier EP sorti mars dernier ?
Oui, complètement. En fait, c'est plein de chansons qui ont été composées en même temps, mais que j'avais pas envie de mettre sur le même disque. Donc là, c'est la continuité, on va dire.
Tu avais deux EP pour faire un album, quoi.
C'est ça. Voilà. Il y en a un troisième qui se prépare aussi, qui sera la fin de ces trois volumes.
Ben, on a hâte d'écouter ça. Quels sont les premiers retours que l'on a pu te faire, si on t'en a fait, depuis par rapport au premier ?
Par rapport au premier, on m'a dit que c'était peut-être mieux produit, mais que ça suivait cette continuité-là, donc c'était assez intéressant, mais voilà, c'est un peu les seuls retours qu'on m'a pu me faire.
Pour l'instant.
Pour l'instant, oui.
I need to leave.
deux EP en un an, ça promet quand même. Quels sont les projets pour cette année, du coup ?
Pour cette année 2024, un album, normalement. Donc on verra un peu, peut-être à la rentrée, j'espère. Et puis voilà quoi.
Il y a de belles scènes des Hauts-de-France qui te sont ouvertes aussi cette année. Est-ce que, où est-ce qu'on peut te voir en concert prochainement pour découvrir ce nouvel EP ?
Alors je serai en solo le 2 décembre au Charleston et à la filature en groupe le 16 décembre.
Par curiosité, tu es toujours à l'école, il me semble, aussi ?
Bientôt.
Bientôt ?
Bientôt.
Où ça ? Et qu'est-ce que tu étudies ?
Au campus des musiques actuelles à Valenciennes. Mm-hmm. Ce sera pour être technicien son, assistant ingénieur du son. Donc voilà, là, c'est ma rentrée le 6 janvier.
Donc, ok.
J'ai hâte.
Musicien, ingé son, est-ce que tu as envie ou pour projet de toucher à autre chose dans ce domaine artistique ?
Pour l'instant, pas vraiment. Je fais un peu d'enregistrement, etc. Et pour l'instant, tout ça, ça me va très bien, on va dire. Ce domaine...
De création.
Oui.
Dans la création, principalement. La musique a toujours fait partie de ta vie, mais sais-tu à quel moment tu as vraiment commencé à vouloir en faire ton métier, ta passion ?
Je pense que ça s'est fait, en fait, petit à petit, on va dire. C'est au fur et à mesure d'une année, en jouant avec les copains, en faisant des concerts, etc., je me suis rendu compte que ça pouvait être viable, mais petit à petit. Donc, j'ai pas forcément un déclic où je me suis dit « Ok, je lâche tout et je fais de la musique », mais c'est venu un peu naturellement, on va dire, dans ma vie, et c'est plutôt cool comme ça.
En faisant des concerts avec les copains, en écrivant avec eux.
Exactement, ouais.
Tu t'es dit, en fait...
C'est bien.
C'est bien, je peux faire même ça tout seul, c'est trop chouette. Et c'est pendant le confinement que tu as commencé à peaufiner ton premier EP ?
Ouais, complètement, ouais.
Et de quoi tu t'inspires pour composer ?
Un peu tout, de la musique que je peux écouter, beaucoup. Je me laisse un peu aller, j'enregistre un petit riff de guitare, et puis je me dis, bon, où est-ce qu'on peut aller avec ça ? Et après, je meuble, on va dire, un peu autour, et puis je vois ce que ça donne, quoi.
Avec des influences comme Stella Donnelly, Mac DeMarco, mmh, ou encore Ty Segall, mmh, quel public tu penses viser, justement, avec le genre musical que tu offres ?
Bah, un peu tous au final, parce que mes chansons vont un peu des trucs, un peu des balades indie pop limite, indie folk on va dire dans un sens même, à des trucs beaucoup plus garage, etc. Des choses qu'il faut voir en live parce que c'est pas encore sorti. Mais du coup, je pense que je peux plaire à pas mal de personnes. Il y a plein de gens qui peuvent s'y retrouver. Si on aime Stella Donnelly, qui est quand même un peu, pas à l'opposé, mais presque de Ty Segall, les deux publics peuvent se rejoindre et peut-être apprécier la musique que je peux faire.
Justement, les influences, enfin les références que tu as, tout le monde ne les connaît pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu que fait Stella Donnelly, que fait Mac DeMarco et Ty Segall ?
Bah, Stella Donnelly, c'est l'indie pop rock, je pense. J'ai du mal à décrire un peu. Enfin, c'est un peu de la chanson en anglais et c'est assez cool. Franchement, moi, je l'avais vu à la Lune des Pirates et ça a été une découverte magnifique. Mac DeMarco, c'est le roi de l'indie rock, je pense, de 2010, de cette génération-là, on va dire.
Le grand roi, oui.
Oui, donc c'est lui qui a un peu démocratisé, un peu, je pense, ce truc-là.
Ce genre.
Des chansons, bah, c'est ça, des trucs un peu simples, mais qui fonctionnent, et avec beaucoup de chorus, avec des trucs... Voilà, et puis Ty Segall, c'est pareil, je pense, une grande icône de sa génération dans le garage psyché, je pense, ouais. Donc il a su évoluer du garage vraiment classique à des choses où maintenant il fait des concerts en acoustique dans des festivals de jazz, alors que, voilà quoi, de base c'est vraiment du gros garage, donc c'est un artiste qui sait changer, qui sait évoluer, et c'est...
Qui fait jamais la même chose au final. On les reconnaît bien, mais on reconnaît bien tous ces artistes-là, mais ils font jamais la même chose au final.
<C'est ça. rire>
Toujours très créatif.
Oui.
Et toi, toujours dans des tons assez mélancoliques et très rêveurs,
ouais,
que racontes-tu et que veux-tu transmettre avec ce nouvel EP ?
Mon nouvel EP, je pense qu'il est un peu sous le ton du changement, de l'évolution, un peu dans un sens. Des fois ça peut être la merde, mais c'est pas grave, il faut avancer et c'est cool aussi, quoi. Et je pense que c'est un peu ça le ton général du disque, on va dire, avec ses particularités selon les musiques, quoi. Mais ouais, je pense que le ton général, c'est plus ça. C'est ouais, cette envie d'avancer, cette envie de changement et de ça peut être cool aussi, en fait, quoi.
Ça peut être cool, la vie, en fait. Il n'y a pas, pas toujours besoin de broyer du noir. Et en créant, on évolue, on grandit. Et, ouais. Et puis, on est content quand même de ce qu'on a fait aussi dans le passé pour en arriver là,
c'est
au
ça,
final.
Exactement.
Est-ce que ta définition du bedroom pop, de la bedroom pop, a évolué depuis la dernière fois que tu nous en as parlé ?
Pas vraiment, je pense. Elle reste, pour moi, voilà, la bedroom pop, ça reste quand même quelque chose qui est né. C'est des mecs qui font de la musique dans leur chambre de façon un peu rudimentaire, je pense, dans un sens. Mais c'est un mouvement qui est arrivé, je pense, qui s'est démocratisé plus après le confinement, j'ai l'impression. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui se sont amenés à se dire, oh, bah, putain, j'ai une carte son, je peux brancher ma guitare dessus et faire du... Et comme ça m'est arrivé à moi. Et ouais, je pense que... Ça reste un peu pareil qu'avant, quoi.
D'apprendre à faire son son soi-même dans sa chambre, ça a quelque chose de plus... Tu te sens plus libre que quand t'es en studio, par exemple, quand tu fais ça dans ta chambre ?
Bah, complètement. Déjà, t'as pas la contrainte du temps.
Oui.
Et ça, c'est quand même quelque chose de... En studio, t'y vas et quand tu vas là-bas, tu sais déjà tout ce que tu vas faire, tout ce qui est... voilà, à part si t'as vraiment des thunes et que tu prends deux semaines de studio et que voilà, quoi. Mais quand nous on y va, du moins, c'est on sait qu'on a deux jours pour une musique, donc bah c'est y a pas à se dire ah, peut-être qu'on peut faire ça ou ça, ou on peut le faire, mais très peu. Alors que quand on est chez soi, bah
t'es plus libre, t'as ouais, plus la créativité et moins pressé justement bah, par le
ça.
Temps. Donc
si à 3h du matin, tu te dis ah là en fait j'ai un truc, ça peut bien marcher, bah tu prends ta guitare, tu le fais, et puis il y a personne qui va te dire ouais il est trop tard ou je ne sais quoi. Et
bah non, t'es dans ta chambre.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, t'as cette liberté-là de la spontanéité, de toutes ces choses-là qui sont hyper intéressantes, et surtout en musique. Et voilà, après ça aide aussi beaucoup à composer, je pense.
Je voulais aussi parler un peu de tes collaborations, parce que t'es quand même en autoproduction, du coup, comme pour ton premier projet, mais tu travailles toujours quand même avec Tête Froide Records.
Toujours, ouais.
Tu es également accompagné par La Lune des Pirates. Mm-hmm. Comment ça se passe, ces collaborations ?
Ça se passe très bien.
Ouais. Ils sont gentils avec toi.
Ils sont formidables avec moi, alors. Non, mais ça se passe super bien. Tête Froide, ils s'impliquent comme ils peuvent dans le projet. Eux, ils s'occupent plus quand même du côté, on va dire, physique. Donc, tout ce qui est CD, etc. Sur l'accompagnement par rapport à la pochette, comment on va faire les choses, etc. D'ailleurs, c'est Dom qui a fait le graphisme, par exemple, pour la pochette, même si la photo n'est pas de lui, mais elle est de Manon Belair, mais... Donc celui qui a fait le graphisme, le premier, c'était Dom qui avait fait toute la pochette, etc. Il s'occupe du pressage et tout. Et La Lune, ils sont plus dans un accompagnement sur le terrain, on va dire. Donc comment on va faire la stratégie pour la sortie de l'EP. Ils nous ont aidé pour une résidence. Ils nous aident au quotidien, on va dire, dans les prestations scéniques, dans toutes ces choses-là, vraiment le réel, quoi. Et Tête Froide, ils sont plus dans les supports, ces choses-là, quoi. Donc c'est ce qui fait que les deux se complètent très bien et c'est hyper intéressant.
T'es bien accompagné, quoi. Mmh. Bon, ça, c'est cool. Tu n'es plus tout seul sur scène,
non.
Aussi. Non. Avec quel partenaire travailles-tu maintenant et pourquoi ?
Alors maintenant, je suis avec Mathilde Tiné, qui joue aussi dans Mega Surf à la basse, et avec Charles Schreiber, qui joue dans Last Night, We Killed Pineapple, à la batterie. Donc là, cette formation-là, elle va encore changer normalement en 2024. On verra ça à ce moment.
Comment ça ?
Ah, mais non, normalement, il y a un autre batteur qui devrait nous rejoindre pour que Charles puisse jouer enfin la guitare. Donc, on verra comment ça se passe. Là, on est encore un peu en recherche.
Ça se peaufine.
Ça se peaufine, ouais, c'est
doucement, mais sûrement.
Tout doucement. Mais non, c'est un plaisir de bosser avec eux. C'est des copains aussi. Donc, forcément, c'est toujours mieux.
C'est toujours un vrai plaisir de bosser avec les copains, c'est clair. Ouais. Alors, acoustique et électrique, pourquoi les deux ? Et qu'est-ce que ça apporte à ton projet, selon toi ?
Des nuances différentes, je pense. C'est que on va pas avoir la même façon d'aborder les choses en acoustique et en électrique. Mmh. Et que du coup, ça donne sur une même chanson des versions différentes, une approche un peu différente aussi. Et c'est deux approches qui sont différentes mais qui sont pas déconnantes, en fait, je trouve. Et moi je compose beaucoup à l'acoustique, après je le fais à l'électrique, et etc. Et du coup ces chansons-là, elles sont faites aussi pour pouvoir faire les deux, en fait, simplement. Et moi, j'aime beaucoup l'acoustique et je réfléchis justement de plus en plus à partir quand même sur certaines chansons vraiment l'acoustique, etc. Donc, on verra, mais c'est dans un coin de ma tête.
En concert, l'électrique et l'acoustique, ça, pour toi, ça apporte plus de choses en concert ou à l'écoute chez soi ?
Les deux, je pense.
Les deux.
C'est une approche qui est différente, donc même en concert, c'est différent. Je vais pas dire mieux, mais c'est différent. Et pareil, à l'écoute chez soi, ça peut. Après, ça dépend, c'est si on aime ou on n'aime pas, quoi. Après, il y a des gens où ça fait très folk au final quand c'est un acoustique, etc. Donc forcément, il y a des gens où ça va pas leur parler du tout, alors quand c'est électrifié, ils vont se dire ah là, c'est cool, il y a ce petit son là de machin, avec cette réverb ou ce chorus là, etc. Donc c'est un peu les goûts et les couleurs aussi, mais moi je trouve que ça donne ouais, vraiment deux chemins différents à la même musique et ouais, je trouve ça hyper cool.
Le 23 septembre, tu étais à Lasca de Beauvais avec Vadim Vernet.
Ouais.
Comment ça s'est passé ?
C'était vachement bien. Moi j'avais jamais vu Vadim Vernet avant et franchement c'était...
C'était chouette.
Ah ouais, c'était trop cool. Ouais, franchement, c'était vraiment bien, ouais.
C'était une bonne scène, un bon concert pour toi ?
Ouais, c'était cool. On a passé une bonne soirée. Il y avait Dom qui m'a accompagné, qui fait mon son depuis le début, qui était là. Et ouais, franchement, c'était un très bel accueil. La scène était au top. Tous les gars qui étaient là-bas étaient géniaux. Donc voilà, il y avait du monde. Après, c'était l'ouverture de la SCA pour la saison, quoi. Donc ils attendaient quand même un peu de monde, etc. Donc non, c'était vraiment bien. Franchement, j'ai bien joué, je pense. Alors...
Tu penses ?
Je pense. Tout était ok, on va dire.
Ouais, ça a fait une belle ouverture de saison, quoi.
Ouais.
Et hier, tu étais au festival de Saint-Riquier.
Ouais.
T'as eu des bons retours, c'est bien passé ?
Ouais, ça s'est bien passé, ouais, carrément. C'était
chouette,
ouais.
Je connais pas trop bien le festival de Saint-Riquier, comment ça se passe, dans quel cadre t'es...
Là, on était au Préau. Donc le Préau, c'est une salle qu'il y a dans Saint-Riquier, du coup... Voilà, un truc un peu sympa, une petite salle, pas très grande, mais bien faite, bien foutue, et voilà, on a joué là, donc on a joué tôt, on a joué à 18h, donc c'est vraiment l'ouverture de la journée, voilà, donc c'était cool, il n'y avait pas 100 personnes, mais on a quand même passé une très bonne soirée, pareil, l'accueil était génial, donc c'était trop bien.
C'était chouette.
Ouais. Puis là, on était en groupe aussi, donc on n'avait pas encore pu faire de vraies scènes, on va dire... en groupe, donc là c'était aussi
l'occasion
ouais, c'est ça.
De voir un peu ce que ça donnait.
Bah c'est ça.
Il y avait un bon retour acoustique.
Ouais, c'était top. Franchement, c'était top. Puis vu qu'on avait fait une résidence il y a un mois, un truc comme ça, et qu'on n'avait pas encore pu avoir un vrai plateau repiqué, etc., avec l'entour, etc. Donc là, on a pu aussi mettre le point sur les choses sur lesquelles on devait travailler, etc. Et voilà, non, c'était bien. C'était un bon exercice au-delà du concert, quoi.
Chouette. Ton EP est donc disponible sur les plateformes ?
Ouais.
Lesquelles ?
Sur un peu tout, Deezer, Spotify, Bandcamp, SoundCloud, YouTube.
Un peu partout ?
Un peu partout, sur mes réseaux aussi.
Et quand est-ce qu'on peut retrouver ton nouvel EP en CD à la Maladisque ?
Très bientôt, très bientôt. On a eu un petit retard avec le presseur, mais normalement il est parti aujourd'hui de chez le presseur, donc le 25. Donc,
ça j'espère
bientôt.
Arriver,
j'espère
d'ici
bientôt.
La semaine prochaine, ça serait chouette.
Normalement, ouais, je pense que la semaine prochaine, ça devrait être là.
Bah, ce serait chouette quand même. Qu'on puisse acheter ce nouvel EP, ce nouveau beau projet qui se suit du premier d'ailleurs.
Et oui.
Bah, merci beaucoup, Adam. Il me semble que tu nous quittes en nous jouant un de tes nouveaux morceaux.
Ouais.
Donc nous terminons cette interview avec Diamonds de Adam et le Mutant. Merci beaucoup Adam.
Merci à toi. I don't like right any.
Timer that I saw.